Joseph Conrad, l'âme d'un guerrier. Chapitre 1er. Le vieil officier à moustache blanche donna cours à son indignation. « Est-il possible que vous autres jeunes gens n'ayez pas plus de bon sens que cela ? Il y a parmi vous des blancs-becs qui ne devraient pas se permettre de juger les quelques malheureux traîneurs d'une génération qui, de son temps, a beaucoup fait et beaucoup souffert. » Ses auditeurs ayant manifesté un remords des plus vifs, le vieux guerrier fut apaisé, mais non pas réduit au silence. « Je suis l'un d'eux, de ces traîneurs, veux-je dire, » poursuivit-il avec calme. « Et qu'avons-nous fait ? Qu'avons-nous accompli ?» Lui, le grand Napoléon, se lança sur nous pour rivaliser avec Alexandre de Macédoine, un ramassis de nations à sa suite. Nous opposâmes le vide de l'espace à l'impétuosité des Français. Après quoi nous leur offrîmes une interminable bataille, si bien que leur armée, à la fin, s'endormit sur des positions établies sur les monceaux de ses propres morts. Puis ce fut le mur de feu de Moscou. Il s'écroula sur eux. Alors commença la longue déroute de la grande armée. Je l'ai vu s'écouler, semblable à la fuite à laquelle sont condamnés les pêcheurs hagards et fantomatiques du dernier cercle de l'enfer de Dante, sans cesse élargi devant leurs yeux désespérés. Ceux qui en ont réchappé ont dû avoir l'âme doublement chevillée au corps pour avoir pu sortir de la Russie à travers un froid à fendre les pierres. Mais dire que c'est de notre faute si un seul d'entre eux a pu échapper, c'est vraiment pure ignorance. Et quoi, nos hommes à nous ont souffert presque jusqu'à la limite de leur force de Russe. Assurément, le moral n'était pas abattu, et puis notre cause était bonne, elle était sainte. Mais ce n'est pas cela qui rend le vent moins rude aux hommes et aux chevaux. La chair est faible. Bon ou mauvais dessein, il faut que l'humanité y mette le prix. Oui, dans ce combat même, pour ce petit village dont je viens de vous parler, nous combattions autant pour l'abri que nous donneraient ces vieilles bâtisses que pour la victoire. Et il en était de même pour les Français. Ce n'était pas par amour de la gloire ni par besoin stratégique. Les Français savaient qu'il leur faudrait battre en retraite dès l'aube, et nous savions parfaitement qu'il leur faudrait bien partir. Au point de vue de la guerre elle-même, le combat n'avait aucun but. Tout de même, notre infanterie et la leur combattaient comme des enragés, ou comme des héros, si vous aimez mieux, parmi ces maisons. Rude affaire, en somme, tandis que les soutiens, en terrain découvert, restaient à grelotter dans un agréable vent du nord, qui balayait à une vitesse vertigineuse, la neige sur la terre et les grandes masses de nuages au ciel. L'air même était indiciblement sombre, contrastant avec la terre blanche. Je n'ai jamais vu à l'œuvre de Dieu un air plus sinistre que ce jour-là. Nous, la cavalerie, nous n'étions qu'une poignée, n'avions guère autre chose à faire que de tourner le dos au vent et de recevoir de temps à autre quelques boulets perdus des Français. C'était, il faut vous dire, les derniers de leurs canons, et c'était la dernière fois qu'ils avaient leur artillerie en position. Ces canons-là ne bougèrent plus de là. Nous les y trouvâmes abandonnés le lendemain matin. Mais cet après-midi-là, ils menaient encore un feu d'enfer sur notre colonne d'attaque. Le vent furieux balayait la fumée et le bruit même. Mais nous pouvions voir constamment la lueur des langues de feu passer le long du front français. Puis une tourmente de neige vous cachait tout, hormis des éclairs d'un rouge sombre, parmi ce blanc tourbillon. Par moments, quand la ligne s'éclairait, nous pouvions distinguer au loin, à travers la plaine, à droite, une colonne sombre et constamment mouvante. La grande déroute de la grande armée se déroulant ininterrompue, tandis que le combat, à sa gauche, se poursuivait furieusement. L'affreuse tourmente de neige balayait cette scène de mort et de désolation. Puis le vent tomba aussi soudainement qu'il s'était élevé le matin. Nous reçûmes alors l'ordre de charger la colonne qui battait en retraite. Je ne sais pourquoi, à moins que ce ne fût pour nous empêcher de geler sur nos selles, en nous donnant quelque chose à faire. Nous fîmes demi-tour à droite et nous nous mîmes au pas pour prendre de flanc cette lointaine ligne sombre. Il pouvait être à peu près 2h30 de l'après-midi. Il faut vous dire que, jusqu'alors, mon régiment, durant cette campagne, ne s'était jamais trouvé sur la ligne principale de l'avance de Napoléon. Pendant tous les mois qui s'étaient écoulés depuis l'invasion, l'armée à laquelle nous appartenions avait combattu contre Oudinot dans le nord. Nous n'en étions redescendus que peu de temps avant, le ramenant devant nous jusqu'à la Bérézina. C'était la première occasion que j'avais, ainsi que mes camarades, de voir de près la grande armée de Napoléon. Un spectacle étonnant et terrible. J'en avais bien entendu parler par d'autres. J'en avais vu les traîneurs. De petites bandes de maraudeurs, des groupes de prisonniers, de loin. Cette fois, c'était la vraie colonne elle-même. Une cohue fourmillante, trébuchante, affamée, à demi-folle. Elle sortait d'une forêt à 1 mille de là, et la tête de la colonne se perdait dans l'ombre des champs. Nous y entrâmes au trot, c'était tout ce qu'il était possible d'obtenir de nos chevaux, et nous enfonçâmes dans cette masse humaine comme si c'eût été un marais mouvant. Nous ne rencontrâmes aucune résistance. J'entendis quelques coups de feu, une demi-douzaine peut-être. On eût dit que leur sens s'était gelé avec eux. J'avais eu le temps de les voir tandis que j'avançais à la tête de mon escadron. Eh bien, je vous l'assure, il y avait des hommes qui marchaient en dehors de la colonne, si dépourvus de tout autre sentiment que celui de leur misère, qu'ils ne tournèrent même pas la tête pour nous regarder charger. Des soldats ! Mon cheval en renversa un du poitrail. Le pauvre diable portait un manteau bleu de dragon, tout déchiré et brûlé, qui lui pendait aux épaules, et il n'en sortit même pas la main pour saisir la bride et se préserver. Il tomba. Nos troupiers pointaient et sabraient. Oui, et naturellement moi, d'abord. Que voulez-vous ? Un ennemi est un ennemi. Pourtant, une sorte d'écœurement et d'effroi me vint au cœur. Il n'y avait pas de tumulte, rien qu'un long murmure grave pesait sur eux, entrecoupé de grands cris et de gémissements, tandis que cette foule continuait à se pousser et à se presser devant nous, sans regard et sans conscience. Une odeur de chiffon brûlé et de blessures purulentes flottait dans l'air. Mon cheval vacillait dans les remous de ces hommes chancelants. Mais c'était comme si on eût sabré des cadavres galvanisés qui ne ressentaient rien. Envahisseurs ! Ah oui, ils étaient déjà entre les mains de Dieu. Je touchai mon cheval de l'éperon pour me dégager. Il y eut une soudaine mêlée et un grognement furieux lorsque notre second escadron s'enfonça dans eux à notre droite. Mon cheval plongea et quelqu'un me saisit par la jambe. Comme je n'avais nulle envie d'être jeté à bas de ma selle, je sabrai d'un revers sans regarder. J'entendis un cri et je sentis soudain qu'on lâchait ma jambe. À ce moment, j'aperçus le lieutenant de ma compagnie à quelque distance de moi. Son nom était Tomassoff. Cette multitude de corps ressuscités aux yeux vitreux grouillait autour de mon cheval comme s'ils eussent été aveugles, en grognant comme des fous. Il était droit sur sa selle et sans même baisser les yeux pour les regarder, était en train de rengainer son épée délibérément. Ce Tomassoff, donc, portait une barbe. Nous avions tous de la barbe alors. Circonstances, manque de loisirs, manque de rasoir aussi. En vérité, nous étions une bande de gens à allure de sauvages, en ces inoubliables jours auxquels tant d'entre nous ne devaient pas survivre. Car, vous savez, nos pertes aussi furent terribles. Oui, nous avions l'air de sauvages. Des Russes sauvages, quoi. Donc, il portait sa barbe, ce Tomassoff. Mais il n'avait pas l'air d'un sauvage. C'était le plus jeune de nous tous. Et cela veut dire qu'il était vraiment jeune. À distance, ça pouvait passer avec la saleté et les traces particulières de cette campagne sur nos visages. Mais si l'on était assez près pour pouvoir bien lui regarder les yeux, on se rendait compte de sa jeunesse, bien que ce ne fût pas exactement un tout jeune garçon. Ses yeux-là étaient bleus, à la façon du bleu d'un ciel d'automne, rêveurs et joyeux aussi, des yeux naïfs et croyants. Un toupet de cheveux blonds se dressait sur son front comme un diadème doré, à l'époque qu'on pourrait appeler en temps normal. Vous allez croire que je parle de lui comme s'il s'agissait d'un héros de roman. Ce n'est rien auprès de ce que l'adjudant découvrit de son sujet. Il découvrit qu'il avait des lèvres d'amoureux, quoi que ceci puisse vouloir dire. Si l'adjudant voulait dire une jolie bouche, oui, elle était en effet assez jolie, mais naturellement ce voulait être un sarcasme. L'adjudant que nous avions n'était pas un garçon très délicat. « Regardez-moi ces lèvres d'amoureux !» s'écriait-il à haute voix, tandis que Tomassoff parlait. Tomassoff n'aimait pas beaucoup ce genre de choses, mais il avait, dans une certaine mesure, donné prise à la taquinerie par certaines impressions qu'il conservait et qu'il avait trait à la passion de l'amour et qui, peut-être, n'était pas d'une espèce aussi rare qu'il semblait le croire. Ce qui faisait que les camarades toléraient ses rhapsodies, c'est qu'elles habiteraient à la France, à Paris. Vous autres de cette génération-ci, vous ne pouvez concevoir quel prestige ces noms-là avaient alors dans le monde entier. Paris était le centre des merveilles pour tous les êtres humains doués d'imagination. Nous étions alors, pour la plupart, jeunes et de bonne famille, mais sortis depuis peu de nos héréditaires nids de province. Simples serviteurs de Dieu, assez rustiques, si je puis ainsi dire. Aussi n'étions-nous que trop disposés à écouter les récits de France que nous ferait notre camarade Tomassoff. Il avait été attaché à notre mission militaire à Paris l'année d'avant la guerre. Haute protection, probablement, ou peut-être simple chance. Je ne crois pas qu'il ait pu être un bien utile membre de la mission, étant donné sa jeunesse et sa complète inexpérience. Et, apparemment, il avait pu disposer de tout son temps à Paris. L'emploi qu'il en fit, ce fut de devenir amoureux, de demeurer en cet état, de le cultiver même, de n'exister que pour cela, si l'on peut ainsi dire. Aussi était-ce plus qu'un simple souvenir qu'il avait rapporté avec lui de France. La mémoire est chose fugitive. On peut la falsifier, l'effacer, on peut même la mettre en doute. Ma foi, j'en suis bien arrivé moi-même à douter que j'ai jamais été à Paris à mon tour. Et la longue route jusque-là, avec des batailles comme relais, me paraîtrait encore plus incroyable, n'étaient certaines balles de mousquet que je n'ai cessé de porter sur ma personne depuis un petit engagement de cavalerie qui eut lieu en Silésie au début même de la campagne de Leipzig. Les aventures d'amour, pourtant, vous laissent peut-être des impressions plus profondes que les moments de danger. On ne va pas à l'amour en troupe, comme qui dirait. L'amour est plus rare, plus personnel et plus intime que le danger. Et rappelez-vous qu'en ce qui concerne Tomassoff, tout cela était encore très récent. Il n'était rentré de France que depuis 3 mois quand la guerre commença. Il avait le cœur et la tête pleins de cette aventure. Il en ressentait réellement comme de l'effroi, et il était assez simple pour le laisser paraître dans ses discours. Il se considérait comme une sorte de personnage privilégié, non pas parce qu'une femme avait jeté sur lui un regard favorable, mais simplement parce que, comment pourrais-je bien dire, il avait eu la merveilleuse illumination de son adoration pour elle, comme si c'était le ciel qui avait fait cela pour lui. Oui, en vérité, il était très naïf, un gentil jouvenceau, et pas bête du tout, mais avec cela, pas la moindre expérience, pas méfiant et peu subtil. On peut en trouver encore comme cela, par ici, par là, dans nos provinces. Il avait aussi dans sa nature un côté poétique. Il se peut que cet été natif, quelque chose de tout à fait à lui, pas acquis. Je suppose que le père Adam a dû être un peu poète de cette façon-là. Pour le reste, un russe sauvage, comme nous appellent quelquefois les Français. Mais pas de cette sorte qui, il l'affirme, mange de la chandelle en guise de friandise. Pour ce qui est de la femme, de cette femme française, eh bien, quoique j'aie été moi aussi à Paris, et avec un millier de Russes, je ne l'ai jamais vue. Sans doute, elle n'était pas à Paris à ce moment. Et en tout cas, sa porte n'était pas de celle qui s'ouvre toute grande aux simples gens de ma sorte, vous comprenez. Les salons dorés ne sont pas mon genre. Je ne pourrais rien vous dire de son apparence, ce qui est singulier, étant donné que j'étais, si je puis ainsi dire, le confident particulier de Tomassoff. Il avait été bientôt intimidé de parler devant les autres. Je suppose que les commentaires du bivouac choquaient ses sentiments raffinés. Mais il m'avait, moi, et il me fallut bien le supporter. Vous ne pouvez pas bien attendre d'un jeune homme, dans l'état où était Tomassoff, qu'il se tienne quoi là-dessus tout le temps. Et moi, je suppose que vous ne me croirez guère, je suis de ma nature une sorte de personne assez silencieuse. Très probablement, mes silences lui parurent sympathiques. Tout le mois de septembre, notre régiment avait cantonné dans des villages et avait eu du bon temps. C'est alors que j'en appris davantage au sujet de ce... On ne peut pas appeler cela une histoire. L'histoire que j'ai à vous dire n'était pas là-dedans. Appelons cela plutôt des effusions. Il m'arrivait de rester sans rien dire 1 heure durant, peut-être, tandis que Tomassoff parlait avec exaltation. Et quand il avait fini, je ne soufflais mot. Et il se produisait alors un effet solennel de silence qui, j'imagine, plaisait à Tomassoff à certains égards. Il ne s'agissait pas, cela va sans dire, d'une femme de la première jeunesse. Une veuve, peut-être. En tout cas, je n'ai jamais entendu Tomassoff faire allusion à son mari. Elle avait un salon, quelque chose de très distingué, un milieu social sur lequel elle régnait avec splendeur. À vrai dire, je ne sais pas pourquoi, mais je crois bien que sa cour se composait d'hommes pour la plupart. Mais Tomassov, je dois vous dire, fut remarquablement discret sur de tels détails dans ses discours. Sur ma foi, je ne sais si elle avait les cheveux bruns ou blonds, les yeux bruns, noirs ou bleus, ni comment elle avait la taille, les traits ou le teint. Son amour planait au-dessus de simples impressions physiques. Il ne me l'a jamais décrite en termes précis, mais il était prêt à jurer qu'en sa présence, il n'était personne dont les pensées et les sentiments ne fussent captivés par elle. C'était ce genre de femme. Les plus admirables conversations sur toutes sortes de sujets s'échangeaient dans son salon. Mais il s'y mêlait toujours secrètement, comme le mystérieux accent d'une musique, la maîtrise, la force, la tyrannie de la pure beauté. Ainsi, apparemment, cette femme était belle. Elle savait détacher de leurs intérêts immédiats, ou même de leur vanité, tous ces gens qui causaient. Elle était un secret délice et un trouble secret. Tous les hommes, en la voyant, se mettaient à rêver, comme si la pensée leur venait soudain qu'ils avaient gâché leurs existences. Elle n'était que joie et frisson de bonheur, et elle n'apporta à des cœurs d'hommes que tristesse et tourment. Bref, elle a dû être une femme extraordinaire, autrement c'est Tomassov qui eût été un extraordinaire garçon d'avoir cette sensation et de parler d'elle comme il faisait. Je vous ai dit que le garçon vous avait en lui un côté poétique, et notez bien que tout cela avait l'accent de la vérité. C'est à peu près la sorcellerie qu'une femme très au-dessus du commun peut déployer, vous savez. Les poètes réussissent d'une façon ou d'une autre à s'approcher de la vérité, on ne peut pas nier cela. Il n'y a pas de poésie dans sa composition, je sais bien, mais j'ai autant de perspicacité qu'un autre, et je suis certain que la dame a été gentille pour le garçon une fois qu'il eut l'entrée de son salon. Qu'il ait pu y avoir accès, c'est là la vraie merveille. Cependant, il y entra, l'innocent, et s'y trouva dans une compagnie distinguée, parmi des gens de haut rang. Et vous savez ce que cela veut dire. Des gilets rebondis, des têtes chauves et des dents qui n'y sont pas, comme l'a dit un satirique. Imaginez parmi eux un gentil garçon, frais et simple, comme une pomme qu'on vient de cueillir à l'arbre, un jeune barbare modeste, d'aspect plaisant, impressionnable et plein d'adoration. Ma parole, quel changement, quel soulagement pour des sentiments blasés. Et avec cela, possédant dans sa nature ce côté poétique, qui empêche même un esprit simple de paraître importun. Il devint un esclave complètement, absolument dévoué. Il en fut récompensé par des sourires, et après quelque temps, reçu sur un pied d'intimité. Il se peut que ce jeune barbare si naturel ait diverti cette exquise dame. Peut-être, du moment qu'il ne se nourrissait pas de chandelles, satisfaisait-il en cette femme quelque besoin de tendresse. Vous le savez, il y a tant de sortes de tendresse dont une femme très civilisée est capable. Des femmes de tête et d'imagination, je veux dire, et à peu près sans tempérament, vous comprenez. Mais qui s'en va sonder leurs besoins ou leurs fantaisies? La plupart du temps, elles ne savent guère elles-mêmes ce qui se passe en elles, et elles passent aveuglément d'une humeur à l'autre, et parfois, il en résulte des catastrophes. Et alors, qui en est plus surpris qu'elles? Pourtant, le cas de Tomassov avait un caractère tout à fait idyllique. Le beau monde élégant s'en amusait. Sa dévotion lui valut une espèce de succès dans la société. Il ne s'en souciait pas. Pour lui, il n'y avait qu'une seule divinité. Il n'existait que le sanctuaire où on lui permettait de circuler, sans égard aux heures de réception officielle. Il profita de ce privilège. Oui, il n'avait pas de mission officielle, vous savez. La mission militaire était censée être plus honoraire encore que tout autre. Son chef était un ami personnel de notre empereur Alexandre, et lui aussi, il ne cherchait que des succès dans le monde, à ce qu'il semblait. Un après-midi, Tomassov vint rendre visite à la dame de ses pensées, plutôt que d'ordinaire. Elle n'était pas seule. Il y avait un homme avec elle, pas un des personnages à gilet rebondi et tête chauve, mais un personnage tout de même, un homme ayant la trentaine, un officier français qui, lui aussi, à certains égards, était un intime privilégié. Tomassov n'en était pas jaloux. Un tel sentiment eût paru présomptueux à ce simple garçon. Bien au contraire, il admirait cet officier. Vous n'avez pas idée du prestige des militaires français à cette époque, même pour nous autres Russes, qui avions su les affronter peut-être mieux que les autres. La victoire les avait marqués au front, on eût dit, pour toujours. Ils eussent été plus qu'humains s'ils n'en avaient pas eu conscience, mais c'étaient de bons camarades, et ils avaient une espèce de sentiment de fraternité pour tous ceux qui portaient l'épée, même si c'était contre eux. Et celui-là était un exemple tout à fait supérieur, un officier d'ordonnance du major général, et en outre, un homme du meilleur monde. Il était solidement bâti et d'un aspect mâle, quoiqu'il fût aussi soigneusement bichonné qu'une femme. Il possédait cette courtoise maîtrise de soi de l'homme du monde. Son front, d'un blanc d'albâtre, contrastait avec la couleur hâlée de son visage. Je ne sais s'il était jaloux de Tomassov, mais je soupçonne qu'il devait en être un peu ennuyé, comme d'une sorte d'absurdité du genre sentimental. Mais ces hommes du monde sont impénétrables, et extérieurement, ils condescendaient à reconnaître l'existence de Tomassov, plus même que ce n'était nécessaire. Une ou deux fois, il lui avait donné quelques conseils mondains fort utiles, avec un tact et une délicatesse parfaits. Tomassov avait été entièrement conquis par cette manifestation d'amabilité sous les dehors froids de la meilleure société. Tomassov, introduit dans le petit salon, trouva ces deux personnes exquises assises l'une auprès de l'autre sur un canapé et il eut la sensation d'avoir interrompu une conversation particulière. Ils le regardèrent étrangement, pensa-t-il. Mais on ne lui fit pas sentir qu'il était de trop. Au bout d'un moment, la dame dit à l'officier, il s'appelait De Castel, « Je voudrais bien que vous preniez la peine de savoir ce qu'il y a d'exact dans cette rumeur. »« C'est plus qu'une rumeur, » remarqua l'officier. Mais il obéit et quitta la pièce. La dame se tourna vers Tomassov et lui dit, « Vous pouvez rester avec moi. » Cet ordre le rendit suprêmement heureux, bien qu'à vrai dire, il n'eût eu aucunement l'intention de s'en aller. Elle le regarda d'un regard profond qui fit que quelque chose se dilata et rayonna dans sa poitrine. C'était une sensation délicieuse, bien qu'elle vous coupât la respiration par moments. Il buvait avec extase le son de sa parole tranquille et séduisante, toute pleine de gaieté innocente et de paix spirituelle. Sa propre passion semblait flamber et envelopper cette femme de langues de feu bleuâtre, de la tête aux pieds et par-dessus la tête, tandis que son âme reposait au centre comme une grosse rose blanche. Hein, c'est bien, n'est-ce pas? Il m'en a dit comme cela pas mal d'autres, mais c'est la seule que je me rappelle. Il se souvenait de tout parce que c'était les derniers souvenirs de cette femme. Il la voyait ce jour-là pour la dernière fois, bien qu'il n'en sût rien alors. Monsieur de Castel revint, rompant cette atmosphère pleine d'enchantement, où Tomassov était plongé au point d'avoir perdu complètement conscience du monde extérieur. Tomassov ne put s'empêcher d'être frappé de la distinction de ses mouvements, de l'aisance de ses manières, de sa supériorité sur tous les autres hommes de sa connaissance, et il en souffrit. Il lui sembla que ces deux êtres brillants, sur ce canapé, étaient faits l'un pour l'autre. De Castel, en s'asseyant à côté de la dame, lui murmura discrètement, « Il n'y a pas le moindre doute que cela est vrai. » Et, tous les deux, ils tournèrent leur regard vers Tomassov. Complètement éveillé de son enchantement, il se sentit intimidé. Il restait là, leur souriant vaguement. La dame, sans détourner les yeux du rougissant Tomassov, dit avec une gravité rêveuse qui lui était tout à fait inaccoutumée, « Je voudrais être sûr de la perfection de votre générosité. Je la veux de l'eau la plus pure. L'amour, à son sommet, doit être à l'origine de toute perfection. » Tomassov ouvrit les yeux tout grands d'admiration, comme si les lèvres de la dame eussent laissé tomber des perles véritables. Ce sentiment, toutefois, n'était pas exprimé à l'intention du jeune russe primitif, mais à celle de l'homme du monde accompli, de De Castel. Tomassov ne put juger de l'effet produit, car l'officier baissa la tête et se mit à contempler ses bottes admirablement vernies. La dame demanda tout bas, d'un ton de sympathie profonde, « Vous avez des scrupules ?» De Castel, sans lever les yeux, murmura, « Ce pourrait être une question de point d'honneur. » Il reprit avec vivacité, « Ce doute ne peut être qu'artificiel. Je n'ai de goût que pour les sentiments naturels. Je ne crois à rien d'autre. Mais peut-être que votre conscience... » Il l'interrompit. « Pas du tout. Ma conscience n'est pas puérile. Le sort de ces gens-là n'a pour nous aucune importance militaire. qu'est-ce que ça peut bien nous faire? La fortune de la France est invincible. » « Eh bien alors, » dit-elle d'un air entendu, et elle se leva du sofa. L'officier français se leva également. Tomassov se hâta de suivre leur exemple. Il souffrait de se sentir en dehors de cette conversation. Comme il portait à ses lèvres la main blanche de la dame, il entendit l'officier français dire avec emphase « Si la lame d'un guerrier, à cette époque vous savez, on parlait vraiment de cette façon, si la lame d'un guerrier, il devra tomber à vos pieds de reconnaissance. » Tomassov se sentit plongé dans des ténèbres plus épaisses encore qu'auparavant. Il suivit l'officier français hors de la pièce et hors de la maison, car il avait l'impression que c'était ce qu'on attendait de lui. Le crépuscule tombait. Le temps était affreux, les rues tout à fait désertes. L'officier français s'attardait étrangement, et Tomassov n'y mettait aucune impatience. Il n'était jamais pressé de s'éloigner de la maison où elle habitait. Et en outre, quelque chose d'étonnant lui était arrivé. La main qu'il avait respectueusement élevée par le bout des doigts s'était appuyée contre ses lèvres. Il avait été l'objet d'une faveur secrète, il en était presque effrayé. Le monde avait chancelé et ne s'était pas encore raffermi. De Castel, au coin de la rue, s'arrêta net. « Je ne tiens pas trop à être vu avec vous dans des rues éclairées, monsieur Tomassov, » dit-il d'un ton étrange. « Pourquoi donc ? » demanda le jeune homme, trop surpris pour en être offensé. « Par prudence, » répondit l'autre brusquement. « Aussi, il faut nous séparer ici. Mais auparavant, je vais vous révéler quelque chose dont vous saisirez tout de suite l'importance. » Ceci, remarquez-le, se passait un soir de la fin de mars 1812. Depuis longtemps déjà, on parlait d'un refroidissement croissant entre la Russie et la France. On murmurait le mot de guerre de plus en plus haut dans les salons et on finit même par l'entendre dans les cercles officiels. En outre, la police parisienne découvrit que notre attaché militaire avait corrompu quelques employés du ministère de la guerre et en avait obtenu d'importants documents confidentiels. Ces misérables, il y en avait deux, avaient avoué leur crime et devaient être fusillés le soir même. Demain, toute la ville parlerait de cette affaire. Mais le pire était que l'empereur Napoléon était entré dans une colère furieuse en apprenant la chose et avait décidé de faire arrêter l'attaché militaire russe. Telle était la révélation de De Castel, et quoiqu'il eût parlé à voix basse, Tomassov en restait étourdi comme d'un coup de tonnerre. « Arrêtez !» murmura-t-il d'un ton désespéré. « Oui, et gardé comme prisonnier d'État, avec tous les autres membres de la mission. » L'officier français saisit le bras de Tomassov au-dessus du coude et le lui serra avec force. « Et détenu en France !» répéta-t-il à l'oreille de Tomassov, puis le lâchant, il recula d'un pas et demeura silencieux. « Et c'est vous qui me dites cela ?» s'écria Tomassov, dans un élan de gratitude extrême qui était à peine plus grande que son admiration pour la générosité de son futur ennemi. Un frère aurait-il pu faire plus ? Il voulut saisir la main de l'officier français, mais celui-ci demeura étroitement enveloppé dans son manteau. Peut-être, dans l'obscurité, n'avait-il pas remarqué le geste. Il recula un peu et de la voix parfaitement maîtrisée d'un homme du monde, comme s'il parlait à travers une table de jeu ou quelque chose de ce genre, il fit remarquer à Tomassov que, s'il entendait profiter de l'avertissement, les moments étaient précieux. « Assurément, ils le sont, » avoua le pauvre Tomassov. « Adieu donc, je ne trouve pas de mots pour vous remercier de votre générosité. Mais si jamais j'en ai l'occasion, je vous le jure, vous pouvez disposer de ma vie. » Mais l'officier s'éloignait et s'était déjà évanoui dans l'ombre de la rue solitaire. Tomassov était seul et il ne gaspilla aucune des précieuses minutes de cette nuit. Voyez comme de simples bavardages et l'oisifs commérages de gens deviennent de l'histoire. Si vous lisez les mémoires du temps, tous, vous le verrez, rapportent que notre envoyé fut averti par une dame de la société qui était amoureuse de lui. Certes, on sait bien qu'il avait des succès auprès des femmes et dans les meilleurs milieux, mais la vérité est que la personne qui le prévint n'était autre que notre innocent Tomassov, un amoureux d'un tout autre genre. Tel est le secret des circonstances qui permirent aux représentants de notre empereur d'éviter la captivité. Lui et toute sa maison officielle réussirent à sortir de France sans encombre, comme le rapporte l'histoire.